Le bonheur en musique, Edith Walter.
Bonjour chers amis auditeurs, un grand bonheur, un très grand bonheur. Je reçois cet écrivain célèbre que vous connaissez tous, Éric Emmanuel Schmitt. Et puis je reçois aussi, nous recevons aussi Maria Callas, parce que dites-vous que, si vous ne le savez pas encore, que Éric Emmanuel Schmitt a sorti un très joli livre, La Rivale, chez Albin Michel. Et c'est une façon de parler, une façon tout à fait originale, de parler de Maria Callas, que nous fêtons beaucoup, puisque elle est née il y a maintenant 100 ans. Donc c'est un anniversaire, n'est-ce pas?
Oui, elle est vraiment morte très jeune.
Oui, 57 ans.
Voilà, et on s'en rend compte quand on fête son anniversaire, parce que voilà, elle s'est brûlée, elle s'est consumée. Cet anniversaire nous rappelle qu'elle s'est consumée.
Absolument. Alors, j'ai plein de questions à vous poser, Éric Emmanuel Schmitt, parce que tout le monde parle de Maria Callas comme la divine, comme vraiment, il y a une journée entière sur Arte, enfin, c'est partout. Et avec votre originalité, avec votre talent, vous avez eu l'idée de faire un livre qui n'est pas ce qu'on a lu un grand nombre de fois, sa naissance, tout ce qui lui est arrivé. et voilà, c'est un livre tout à fait original. Alors, d'abord, j'aimerais savoir quelle est votre relation avec Maria Callas.
Elle m'est arrivée par la radio. En 1977, j'avais 17 ans. Et on apprend la mort de Maria Callas. Et la radio, grand service, c'était France Inter, passe tout d'un coup cette voix. Et je l'entends pour la première fois. Et évidemment, je suis immédiatement captée par elle. Parce que cette voix, elle porte toute l'expérience humaine. Elle est à la fois forte et meurtrie. Il y a une connaissance dans cette voix de toutes les passions. Alors du coup, après, j'ai vite demandé à mes parents de m'acheter des disques de Maria Callas. Et elle m'a ouvert tout un univers qui est l'univers de l'opéra italien et surtout de l'opéra romantique. Italien, et à partir de là, je ne l'ai jamais quitté. Alors, c'est une vraie relation d'amour, hein. C'est-à-dire, de temps en temps, je n'en peux plus, je m'en vais, je claque la porte, je vais écouter d'autres chanteuses, et puis
vous revenez.
Voilà, parce que les autres chanteuses, c'est vrai qu'elles ont des plus belles voix qu'elles, mais il se passe quelque chose avec Callas, évidemment, qui ne se passe avec personne d'autre. Elle est chargée, elle a une mission, c'est de transmettre la pensée des compositeurs, l'âme de ces personnages, et elle y arrive comme personne.
Oui, mais alors, Éric Emmanuel Schmitt, vous qui avez le don reçu de Dieu, tellement de dons, on lit vos romans, vos pièces de théâtre et vous écrivez sans arrêt à chaque fois, on se passionne pour le dernier livre sorti. Je me suis précipité quand j'ai eu ce livre dans la main, en me disant comment vous alliez parler de la Callas. Et ça, c'est très surprenant.
Oui.
C'est très surprenant. Alors, d'abord, pourquoi vous avez fait un livre sur la Callas, sur Maria Callas?
Oh, bah, c'est... J'avais envie de rendre hommage à quelqu'un qui a une importance dans ma vie, puisque c'est... Parfois, vous savez, même il m'est arrivé, en tombant amoureux, d'avoir une phrase musicale au fond de l'esprit, et souvent, c'était Maria Callas qui était en train de la prononcer, parce que c'est qu'elle m'a donné comme une ossature sentimentale. C'est quelque chose d'extraordinaire, ouais. Et oui, je me souviens parfois de me rendre compte que je tombais amoureux parce que je l'entendais chanter l'air de Dalila dans Samson et Dalila. Verse-moi l'ivresse. Et en l'entendant au fond de ma tête, je me dis, ah, mais serais-je amoureux? Voilà, elle est là, très présente en moi. Alors c'est vrai que j'ai voulu en parler différemment. Et que je me suis dit que ce qui serait original, c'est de faire un portrait en creux, c'est de faire une description ironique, parce que j'adore l'ironie, et donc la raconter du point de vue d'une femme qui se pense sa rivale et qui lui en veut à mort de l'avoir éclipsée.
Oui, alors c'est complètement étonnant parce que il fallait en effet, pour être honnête et sincère, que vous essayiez de faire un portrait de cette femme adulée aussi précis que possible, et ça n'était que possible que par l'intermédiaire d'une autre.
Oui, parce qu'en fait, Callas a beaucoup de défauts.
Oui. Alors, et vous ne les évitez.
Et voilà, en parlez, et sa rivale est d'abord montre tout le temps ses défauts. C'est-à-dire une voix qui n'est pas d'une extrême beauté. C'est pas la voix de Montserrat Caballé, c'est pas la voix de
Canavois, de Margaret Price,
et Margaret Price, Tebaldi, etc. C'est pas du tout cette voix-là. C'est une voix qui est forte, qui est puissante, mais qui est parfois presque stridente, qui a un vibrato assez accentué, qui a un grain tout à fait spécial. Donc et puis le fait de chanter comme ça sur toutes les tessitures que peut avoir une voix, et non pas dans la tessiture de confort comme le font toutes les cantatrices
qui se limitent par rapport à leur voix pour les ménager le plus longtemps possible.
Exactement, et sa calasse ne le fait pas. Conclusion, elle se brûle, oui. Évidemment. Et puis cet investissement scénique qui est aussi la compensation de plusieurs défauts. D'abord, de même qu'elle a domestiqué sa grosse et large voix pour en faire parfois une flûte, elle a domestiqué son corps puisqu'elle perd des kilos pour pouvoir incarner de façon crédible les personnages qu'elle chante. Et puis elle domestique aussi autre chose qui est sa vue, tout simplement. Elle est myope comme une taupe, elle voit pas le chef d'orchestre dans la fosse. Conclusion, elle apprend mieux les partitions que toutes ses contemporaines, elle travaille la musique parce qu'elle pourra pas s'appuyer sur le geste du chef. Et autre conclusion, elle travaille avec le metteur en scène parce que autrement elle tombe dans la fosse si elle compte passait pas. Et donc cette compensation de tous ces défauts par une volonté, par quelque chose qui la hausse du talent au génie, c'est quelque chose que je trouve admirable. Mais Carlotta, mon héroïne, elle ne voit d'abord que le défaut.
Alors vous en parlez magnifiquement, visiblement vous la connaissez par cœur, mais c'est pas une émission sur Maria Callas que j'aimerais faire. C'est une émission sur Eric Emmanuel Schmitt et sur La Rivale. Vous allez tellement mieux que moi raconter le schéma de ce livre.
Ouais. Alors, nous sommes à la Scala de Milan aujourd'hui. Un jeune guide, un jeune homme, Enzo, conduit des touristes à l'intérieur de la Scala après leur avoir fait visiter d'autres monuments de Milan. Et il dit c'est le temple de l'art lyrique, c'est là que sont produits les plus belles voix, dont surtout la plus grande d'entre toutes, Maria Callas. Et là, il y a une vieille dame qui lui dit arrêtez avec cette Maria Callas, il y a au moins 20 cantatrices qui avaient une plus belle voix qu'elle. Et Enzo lui dit, mais madame, comment osez-vous? Et d'abord, qui êtes-vous? Et elle lui dit, j'étais la rivale de Maria Callas.
Et Enzo... est-ce qu'elle a existé, cette...
Carlotta Bernoulli?
Oui, c'est un personnage qui sort de votre tête, uniquement.
Voilà, j'ai beaucoup fait travailler beaucoup de journalistes, effectivement, qui se sont demandé si elle existait. Parce que, oui. Comme vous avez vu, vous qui connaissez, tout le reste est exact. Oui. Mais elle, je l'ai inventée. Bien sûr, elle, je l'ai inventée. Et en fait, Enzo, lui, va se dire, mais est-ce que j'ai affaire à une mythomane? Est-ce qu'elle a vraiment chanté? En même temps, il se souvient que son grand-père lui avait parlé d'elle. Et donc, il va en fait se prendre de passion pour cette femme qui a en plus un caractère très fort, qui est péremptoire, qui a des opinions sur tout.
Elle est médiocre, elle est ordinaire, elle est vulgaire.
Mais elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas du tout. Et avec elle, on va replonger justement dans le passé, parce qu'Enzo va mener son enquête, et on va voir effectivement une jeune femme qui a commencé en même temps que la Callas, très jeune, qui a été sur scène en même temps que la Callas à ses tout débuts, et puis et tout d'un coup, la courbe s'est inversée, c'est-à-dire que...
très vite.
Oui, Callas montait et Carlotta descendait. Et au lieu de se dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je ne fais pas bien, est-ce que je suis paresseuse, etc., Elle a un système d'explication très simple. Elle pense que c'est de la faute à Callas. Et que Callas appelle les directeurs de théâtre pour leur dire « Ne la prenez pas, elle va me faire de l'ombre. » Et un acharnement de son ennemi, de Callas sur elle. C'est le principe du bouc émissaire.
Alors, ce qui est complètement étonnant dans ce livre, et mes auditeurs vont tout de suite comprendre, on va passer un air ou deux de la Traviata, et je lis ce que cette femme est censée dire à ce sujet. C'est au moment où Visconti la met en scène. Il met en scène la Traviata et Callas. Jamais Carlotta n'aurait accepté d'y suivre si une curiosité viscérale ne l'avait poussée à aller entendre sa rivale. Selon elle parce qu'elle assiste donc à cette qui a été mémorable.
Mémorable Traviata.
Absolument, mémorable Traviata. Selon elle, Callas ne possédait ni la voix du premier acte, soprano coloratour, ni celle du deuxième acte, soprano lyrique, ni celle du dernier, soprano lyrico spinto. Carlotta lui accordant tout au plus une filandreuse tessiture de soprano dramatique. Se léchant les babines, elle se para en vue de sa déconfiture. Elle détesta tout ce qu'elle vit ce soir-là à la Scala. Ce qui est très habile, ce que vous dites, parce que tout cela est vrai. Il est vrai qu'il y a trois voix dans la Traviata, et on a reconnu qu'elle était bouleversante, mais on a toujours pensé que, passant d'un registre à l'autre, il y avait comme un trou.
Et les trous sont accentués avec le temps, bien sûr.
Et le trou, c'est...
Ouais. Non, mais c'est Callas laisse la plus grande trace dans l'histoire du chant en ayant fait exactement ce qu'il ne faut pas faire.
Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous écoutions quand même cette Callas? Alors, on va écouter un extrait de cette Traviata de Verdi, magnifiquement chantée par Maria Callas. Elle est ici accompagnée par le ténor Francesco Albanese, et c'est l'orchestre de Turin, de la RAI, que dirige Gabriel Santini, qui l'accompagne. Cet extrait fait partie de ce coffret consacré à la Divina Maria Callas, édité par la Werner Classique, juste pour cet anniversaire des 100 ans de naissance. On écoute Maria Callas, on écoute Verdi, on écoute la Traviata.
Che sperar più, che farò?
extrait de l'opéra de Verdi, La Traviata. Vous avez entendu Maria Callas, qui était accompagnée, qui était en compagnie de Francesco Albanese, et c'est l'orchestre de Turin de la RAI que dirigeait Gabriel Santini qui l'a dirigé. Cet extrait du coffret La Divina de Maria Callas, édité par Bernard Classique. Et je vous rappelle que on a le grand bonheur d'être en compagnie d'Éric Emmanuel Schmitt, qui nous parle de ce petit bijou, La Rivale. La Rivale, ce n'est pas évidemment Maria Callas. Et ce petit livre est sorti chez, c'est pas petit livre, c'est un grand livre, chez Albin Michel. Voilà. C'est très habile parce que vous ne dites jamais de choses fausses. C'est-à-dire que ce personnage inventé par vous, qui est censé subir, et elle n'a pas été la seule, subir l'éclosion et la suprématie totale de cette Maria Callas, peut dire elle ce qu'elle veut, c'est ni vous.
Oui.
Et pourtant, c'est la vérité. Et alors, ce qui est très joli dans ce livre, c'est que malgré tout, vous respectez tout le monde. C'est-à-dire que Maria Callas va retrouver sa vraie place.
Oui, oui, d'une manière qu'on n'expliquera pas, parce que ça fait partie de la chute du livre. Oui. Mais même quand Carlotta, sa rivale, va la voir. La façon dont elle ne comprend pas ce qui se passe nous fait nous comprendre ce qui se passe. Quand elle va voir cette Traviata, elle dit « Non, mais on n'est pas à l'opéra, là. On a l'impression d'être au théâtre ou même au cinéma parce qu'on croit qu'on a une prostituée tuberculeuse en face de soi. » Et elle dit « Le chant, c'est pas ça. C'est quelque chose de joli qu'on fait à la fin des repas. » Et donc, on comprend en creux la bombe Callas qui, tout d'un coup, rend le théâtre à la musique. Et cette incompréhension de Carlotta, et il y a un autre moment où, alors qui est célèbre, c'est lorsqu'elle chante devant le président de la République italienne et qu'elle ne fait que le premier acte de la Norma et qu'elle arrête après et que personne ne comprend pourquoi. Et là, il y a un moment où Carlotta vacille, c'est-à-dire qu'il y a un moment où elle n'est plus en face de Callas, mais elle est en face de Norma, la prêtresse, qui chante à la lune, qui est trahie par son amant qui va partir vers une autre. Et tout d'un coup, elle oublie qu'elle est en face de la personne qu'elle est, parce que le théâtre, la passion, l'histoire est arrivée. Heureusement, elle se ressaisit parce qu'il y a quelqu'un qui va huer, et elle revient dans sa détestation. Et donc, pour moi, ça nous permet quand même de comprendre le phénomène.
Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous mettez en valeur le fait que, très longtemps, l'opéra, c'était vraiment des cantatrices qui pouvaient avoir des voix sublimes, mais qui, au point de vue théâtral, elles bougeaient pas, elles étaient debout.
Oui.
Et votre héroïne, si je puis dire,
ce côté-là,
c'est-à-dire qu'elle pense que il suffit de chanter et surtout pas d'incarner une émotion quelconque ou un rôle quelconque.
Non, voilà. Alors après, moi, dans la vie, je mettrais des nuances à ça. C'est-à-dire que, par exemple, une grande chanteuse comme Montserrat Caballé, elle ne faisait pas du théâtre, mais le théâtre était dans sa voix.
Oui, elle était un peu lourde et c'était pas en effet une tragédienne.
Mais en même temps, il y avait une sensibilité, une émotion extraordinaire qui passait à travers une voix sublime. Donc, je peux avoir des bonheurs qui...
Certes.
Voilà, je peux avoir des bonheurs, je dirais, instrumentaux et d'émotions.
Mais avouez qu'on ne va pas vers cela. De plus en plus, on demande vraiment une autre dimension.
Oui, une dimension d'incarnation, de jeu, de physique qui correspondent
Et elle a joué un rôle évident.
Prépondérant.
Ça a accéléré.
Moi, je raconte Carlotta, comme tous les chanteurs et les chanteuses de cette époque, elle a ses propres costumes pour chanter ses rôles. Elle a un costume pour la Tosca, et quelle que soit la production, quel que soit le décor, quel que soit le metteur en scène, elle arrive avec son costume. C'était comme ça dans le passé. On ne faisait pas des costumes spéciaux pour une production. C'était le chanteur qui arrivait avec ses costumes. Et donc, on était dans un degré du théâtre qui était vraiment un degré assez lamentable. Et là, on doit dire que ça a changé. ce qui n'est pas non plus sans provoquer aussi des défauts, parce qu'il y a parfois des metteurs en scène qui se pensent plus importants que l'œuvre qu'ils représentent et qui pensent... Moi, quand un metteur en scène pense qu'il est plus intelligent que Mozart ou Verdi, au secours.
J'ai été étonnée, Éric Emmanuel Schmitt, parce que vous avez écrit merveilleusement sur, en parlant de Beethoven, Mozart, Chopin, et je me suis dit, mais vous avez aussi une passion pour l'art lyrique.
Ah oui. Ah oui. En plus, comme j'ai la chance d'être bon du chiffreur au piano, j'ai beaucoup accompagné de chanteurs. Ouais, j'ai beaucoup accompagné.
Nous étonnerait vraiment tout le temps.
qui répétaient leur rôle, qui répétaient une audition. Et moi, comme j'étais bon déchiffreur, on m'appelait. Et puis que j'adorais ça. Me mettre à côté d'un chanteur, sentir un corps dont sort une voix, c'est quelque chose de tellement magnétique.
Alors justement, vous qui avez cette sensibilité extraordinaire et qui aimez tellement la musique, comment vous pouvez expliquer cette charge émotionnelle qui est unique?
Oui.
Vraiment.
C'est parce que le chanteur est en danger. C'est un métier athlétique. C'est un métier qui demande une condition physique extraordinaire, à la fois des muscles et de la détente. Et produire des sons d'une même qualité, avec une telle intensité sonore, puisqu'ils peuvent passer parfois un orchestre, en gardant de la pureté sans crier, c'est un travail monstrueux. Et donc on sait qu'on est en face d'un funambule qui marche sur un fil.
C'est pas ça qui vous émeut. Ce qui vous émeut, c'est cette espèce d'association de représentation, oui. Mis en
Mais
valeur.
Je crois que ce qui m'émeut déjà, c'est le souffle. C'est-à-dire qu'un souffle humain puisse produire des phrases musicales de cette beauté. Et j'aime autant la respiration que le son produit. J'aime autant le silence aussi entre les sons produits. C'est-à-dire, pour moi, c'est une métaphore de la vie. C'est exalter la beauté de la vie. C'est faire du temps qui passe un temps qui vibre. Et un temps qui nous pénètre au plus profond. C'est pour ça qu'on a besoin de la musique.
Éric Emmanuel Schmitt, mais c'est... comment expliquez-vous que moi j'ai dirigé pendant des années une revue d'art lyrique, vous n'étiez pas né, mais que ce soit Jacques Bourgeois, que ce soit Serge Segalini, ces gens-là pleuraient vraiment. Et moi je pleure quand j'entends un adagio de Schubert, oui. mais je ne pleure pas en entendant la Norma qu'on va entendre, si vous êtes d'accord.
Eh ben, moi, je peux pleurer en entendant la prière de la Tosca, en entendant la prière à la lune de la Norma. Si, parce que d'abord, j'entends la prière. Donc ça, c'est une chose qui forcément me touche profondément. Et je me dis, mais nous, humains, on est capable du pire. C'est ce qui est un peu ce qui se passe en ce moment un peu partout
oui.
sur la Terre. On est capable du pire, mais regardez, là, on est capable du meilleur. Et c'est ce que d'ailleurs dit le personnage de la Tosca, vici d'arte et vici d'amour. J'ai vécu d'art, j'ai vécu d'amour. Alors pourquoi? Pourquoi tout ce mal? Et je trouve que la musique, le chant, nous met du côté de la beauté, de la contemplation de ce qui vaut la peine de vivre. Et nous éloigne de la violence du monde et nous la fait juger en disant mais pourquoi ?
Plus que Schubert, pour vous, vous avez parlé de Chopin, de Beethoven, de Mozart avec une telle sensibilité qu'on a l'impression que ce sont vos dieux.
Oui, mais Schubert me console plus que tous les opéras de Verdi ou de Puccini.
On est d'accord. On écoute quand même Bellini.
Mais quand
Est-ce
même.
Que Cassadiva quand même ?
Ben voilà.
Thank you.
Extrait de l'opéra Norma de Bellini, vous avez pu entendre Maria Callas dans cet air célèbre de Costa Diva, et c'était les chœurs et l'orchestre de la Scala de Milan qui l'accompagnaient. Ils étaient dirigés par Tulin Serafin. Je vous rappelle que je suis en compagnie d'Éric Emmanuel Schmitt et que on a la chance d'entendre Éric Emmanuel Schmitt nous parler de La Rivale, ce livre qui vient de sortir sur Maria Callas, cette façon tellement originale. Et j'ai oublié de vous dire que c'est sorti chez Albin Michel. Éric Emmanuel Schmitt, vous êtes amusé en écrivant ça?
Oui, beaucoup. Beaucoup, parce que cette Carlotta est un personnage haut en couleur, qui n'a pas de doute. Moi, de temps en temps, j'envie les gens qui n'ont pas toutes, parce que moi, j'en ai tellement. Et vous savez, une fois, j'avais vu dans une interview une phrase de Bruce Willis, l'acteur américain. Il avait dit une chose qui m'avait beaucoup fait rire. Et il avait dit, j'adore jouer les méchants parce que les rôles de méchants ont les plus belles répliques et les plus jolies fringues. Et en écrivant Carlotta Bellini, je me disais, il a raison. Qu'est-ce que j'aime me mettre dans cette méchante, mauvaise, hargneuse, mais qui, qu'à un certain moment, est touchante, parce que malheureusement, on lui ressemble un peu.
Justement, c'est ça qui m'intéresse. Je voudrais que vous disiez à mes auditeurs quelle idée ils vont avoir de Maria Callas quand ils vous auront lu.
Ils ont l'idée d'une femme qui n'a pas fait un métier, mais a vécu un sacerdoce pour l'art. Elle a tout donné. Carlotta Bernoulli en face est une hédoniste. Elle chante bien, c'est joli. Elle aime les hommes, c'est bon. Elle mange bien, grossit. mais elle fait pas d'efforts. Callas a tout changé, sa voix, son corps, s'est consacré aux choses. Et sa grande tragédie, bien sûr, c'est que quand elle chante l'amour, elle ne le vit pas, et quand elle le vit, elle ne peut plus le chanter. Ça, c'est vraiment la tragédie.
C'est joliment dit.
Ouais, c'est la tragédie de la Callas. Oui. Et elle a une vie qui est un, et c'est ce que dit Carlotta. Il dit, non, elle n'a pas réussi sa vie, mais elle a réussi sa mort. Alors, il dit, mais pourquoi? Mais elle dit, non, mais elle avait un sens de la publicité incroyable. Elle meurt comme une de ces héroïnes d'opéra qu'elle a chantées. Elle meurt dans la solitude amoureuse, dans le désespoir et dans la solitude.
Ouais, tout ça est juste.
Alors, pour Carlotta, c'est du marketing.
Et il y a aussi une chose très jolie, c'est la façon dont, moi j'aimerais pouvoir lire tout le livre là, aux éditeurs, c'est pas vraiment possible. Donc, c'est la façon dont Carlotta découvre, elle-même qui est moche, qui est vulgaire, tout ça, elle découvre que lorsque la Cala s'est transformée en une des plus jolies femmes qu'on puisse voir, qui est habillée par les grands couturiers, il y a un article... Je vous laisse.
Un article qui les montre toutes les deux dans le même rôle. Et comme elle se réveille d'une nuit de sensuelle, elle jette un coup d'œil et elle ne se reconnaît pas. Et elle voit une sorte de bouchère couperosée, mal dans son costume, en se disant « Oh la pauvre !» Et elle se rend compte que c'est elle.
Et à côté ?
Et à côté, il y a une sylphide, il y a une femme élégante, avec une classe infinie. Et c'est Maria Callas. Et là, évidemment, comme d'habitude, elle pense qu'elle n'est pas responsable. Elle pense que c'est quelqu'un qui lui a joué un mauvais tour. Elle pense que c'est son amant qui a fait un montage, etc. etc. Parce qu'elle
ce qui vous permet de ne pas trahir votre héroïne.
Exactement. mais voilà, mais je pense qu'on a tous vécu des moments comme ça où on aperçoit... ce que peut voir quelqu'un de mal intentionné sur nous. Et c'est un moment de souffrance, je pense que chacun nous l'a connu.
Bien sûr.
Et donc, moi, vous savez, je reste malgré tout empathique toujours avec mes personnages, et là, elle me touche, elle me touche.
Elle est foncièrement malheureuse.
Elle est foncièrement malheureuse. Mais sa force, c'est qu'elle ne laisse pas de place au malheur dans sa vie. Elle est persuadée qu'elle n'est pas malheureuse.
Et ça vous permet, vous, auteur, de dire quoi votre admiration pour la beauté de Maria Callas.
Ah ça, c'était, je veux dire, elle était vraiment, elle et Audrey Hepburn pour moi incarnent les années 50. La femme élégante, sophistiquée, mais il y a quelque chose de frais quand même. C'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est, elle avait un statut hors norme, c'est-à-dire qu'elle était sortie.
C'est un miracle. Ouais, cette femme.
Elle était sortie du monde de l'opéra pour être adulée comme une Grace Kelly ou une Audrey Hepburn, c'est-à-dire pour une femme belle, élégante, classieuse. Même des gens qui n'allaient jamais à l'opéra savaient qu'elle était Maria Callas.
Oui, c'est sûr. Et alors, vous parlez très très bien de sa mort simplement par les mots de Carlotta.
Oui, mais vous savez que c'est... Carlotta dit, elle a réussi sa mort. Elle dit, moi, je me suis laissé avoir, j'ai vieilli. Et elle dit, non, c'est vrai que si on veut avoir une vie qui ressemble à un destin, il faut mourir jeune. Et elle l'a fait. Et là, elle a quand même une once d'admiration. Mais en même temps, elle est du côté de la vie, Carlotta. Et elle n'a pas franchement tort non plus. Donc j'aime bien quand on est dans l'ambiguïté comme ça, c'est-à-dire quand on, à la fois on peut admirer des destins fous et fulgurants comme ceux de Callas et aussi avoir de la tendresse pour les destins ordinaires qui sont peut-être plus proches des nôtres. Pour moi c'est toute ambiguïté humaine.
Alors je sais que vous devez nous quitter dans quelques minutes. Est-ce que vous êtes d'accord pour que on écoute la Habanera de
Carmen,
et est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rôle que vous aimez, que vous préférez de Maria Callas?
Très sincèrement, je trouve que c'est Tosca. C'est Tosca parce qu'elle avait tout pour être Tosca. Tosca, c'est une cantatrice, déjà dans l'opéra. Donc Maria Callas, elle entre, il n'y a pas de problème, on pense que c'est une cantatrice. Et elle aime passionnément, elle est capable de tuer. Et en même temps, elle est juste avant, elle fait une prière et c'est un agneau. Il y a toutes les forces de la femme. Il y a une phrase qui m'avait complètement séduite, Maria Callas. Un jour, on lui a demandé qu'est-ce que vous pensez que vous avez de spécifique et qui attire les gens. Elle a répondu, elle qui était quand même une femme ravissante avec la voix de femme par excellence, elle a répondu, ma virilité.
Est-ce que vous êtes quand même d'accord pour qu'on écoute un air d'un compositeur français?
Oui, parce qu'elle chantait très bien le français.
Alors, je vous propose un extrait de l'opéra de Bizet, Carmen, La Habanera, qui est si célèbre, chantée ici par Maria Callas, accompagnée par l'Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris que dirige Georges Prêtre. C'était la Habanera, un extrait de l'opéra de Bizet, Carmen. Et c'était évidemment Maria Callas qui l'a chantée. Elle était accompagnée par l'orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris que dirige Georges Prêtre. Et cet air et tous ses opéras font partie du coffret La Divina Maria Callas, édité par la Barner Classique. Voilà, notre écrivain doit quitter le studio. Il prend le train et s'en va loin. Mais vous ne le perdez pas vraiment, dans la mesure où vous pouvez toujours nous entendre en podcast pendant longtemps. Et puis, moi-même, la semaine prochaine. Au revoir.